Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, le 8h en temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le monde célèbre ce 6 février la journée internationale contre les mutilations génitales. Au Mali, certaines victimes bénéficient d'une reconstruction de l'organe endommagé. Comment réussir le processus de désarmement à des groupes d'autodéfense annoncés par les autorités, des spécialistes des questions sécuritaires et des représentants de la société civile donnent leur avis dans ce journal. La rubrique Zoom sur du jour parle de ces personnes qui ont horreur de respecter leur rang. Ces champions du désordre ne manquent pas de stratagèmes. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilomega à la mise en onde de Mamadou Ouattara. La journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines est célébrée ce jeudi 6 février 2025 à travers le monde. Le thème à l'échelle mondiale est « Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Au Mali, cette journée intervient dans un contexte où certaines victimes bénéficient d'une reconstruction de l'organe endommagé, une opportunité offerte par l'association malienne. Malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Reportage d'Assetou Kanté avec l'appui de notre correspondant à Koulikoro.
La réparation des complications liées à la pratique de l'excision se fait régulièrement dans les localités où le phénomène est récurrent. Brahima Balo est le chargé de programme de l'ONG AMSOPT, Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Il explique que la prise en charge s'effectue après une sensibilisation des communautés.
Lorsque nos animatrices vont dans un milieu, après la sensibilisation, elles parlent des complications de l'excision, elles ont des boîtes à images, elles possèdent également le mannequin pour expliquer et mieux faire comprendre les complications liées à la pratique de l'excision. Certains de nos villages ont abandonné la pratique de l'excision suite au succès qu'a engendré la prise en charge médicale.
Justement, cette dame sous couvert d'anonymat a amené sa fille après avoir suivi une séance de sensibilisation des animatrices dans leur localité. Elle se réjouit aujourd'hui de la réussite de la réparation de sa fille.
Elle perdait fréquemment du sang. Un kyste a commencé à se former dans ses parties intimes. C'était très fragile, on dirait un œuf. J'ai vu ces images lors d'une formation. C'est alors que je suis venue voir ma sœur. Nous avons approché l'AMSOPT. Ils nous ont aidés. Nous n'avons rien payé. Aujourd'hui, ma fille est guérie et se sent en pleine forme.
L'AMSOPT travaille avec plusieurs partenaires, dont One Stop Center. Les responsables de cette ONG regrettent la déclaration tardive des victimes. Dr Handa Kuntu Koulibaly, médecin à One Stop Center.
Les difficultés majeures, c'est surtout, dans bien des cas, c'est les retards des déclarations. Mais ça ne nous empêche pas de faire le travail. Pour y avoir des petits retards dans la prise en charge. Des situations peuvent venir s'il se trouve que ce moment-là, le partenaire n'est pas dans sa période d'action.
À noter que depuis la création de l'AMSOPT, plus de 5000 femmes et filles ont bénéficié d'une prise en charge. Elle intervient dans les régions de Kaye, Nioro du Sahel, Koulikoro et Nara.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La journée internationale de la fraternité humaine a été célébrée ce 4 février 2025 sous un engagement à forger une alliance de paix. C'est là pour promouvoir un dialogue interreligieux et interculturel dans un contexte de recrudescence des discours de haine et de conflits. Au Mali, les confessions religieuses multiplient les actions pour contribuer à créer un Mali plus compréhensible, inclusif et pacifique. Intella Akbilal.
Al-Hassan Mouriboba est islamologue et responsable pédagogique au Centre islamique de formation et de documentation, CIFOD. Selon lui, la tolérance religieuse est un devoir pour chaque fidèle musulman, car l'islam est par essence une religion de paix, de fraternité et d'entraide.
L'une des grandes missions de l'islam, c'est cultiver la paix dans les sociétés humaines. L'islam nous enseigne de respecter la religion des autres et la confession des autres. Tout musulman doit porter justement cette mission et œuvrer pour qu'elle soit réalisée. Nous devons œuvrer pour sauvegarder les acquis de cette tolérance qui a toujours prévalu au Mali.
La fraternité humaine est un thème fondamental que l'on retrouve dans presque tous les passages de la Bible, a indiqué Abbé Edmond Dembélé, directeur national de l'enseignement catholique. Il ajoute que l'Église reconnaît recommande aussi le dialogue interreligieux pour qu'au-delà des religions et des ethnies, les Maliens se sentent frères et sœurs et vivent ensemble.
L'Église enseigne fortement la fraternité humaine et la recommande vivement entre les hommes. Parce que quand vous parcourez toute la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, les enseignements qui sont donnés disent aux hommes qu'ils sont tous frères et sœurs et qu'ils doivent apprendre à s'aimer en tant que frères et sœurs. Et l'Église recommande le dialogue interreligieux.
Ces religieux invitent les fidèles des deux confessions à s'éloigner des discours de haine, de sectarisme, de l'extrémisme religieux et d'intolérance.
Le désarmement des groupes armés est une recommandation du dialogue intermalien face aux forces vives de la nation. Il y a quelques semaines, le président de la transition a annoncé le début prochain du processus. Après plusieurs tentatives, pourrait-il aboutir cette fois-ci? Comment? Sur le plateau du grand dialogue de ce mardi, des analystes sécuritaires et des responsables d'organisations de la société civile se sont exprimés sur le sujet. Lalla Aïcha Welet Infa.
Mohamed Mamata Touré est le président de l'association Anko Mali, une organisation de la société civile. Selon lui, ce processus de désarmement qu'ont annoncé les autorités peut réussir. Il estime qu'en revanche, qu'il y a des préalables à assurer pour éviter un échec.
Tout est question d'argent. Et aujourd'hui, tous les milices d'autodéfense qui sont là, ils ne peuvent pas être tous des militaires, des policiers, des gendarmes ou autres. Il y en a qui doivent être réinsérés dans d'autres choses. Il faut qu'il y ait un travail au préalable d'abord. Sinon, le risque est là. N'en doutons même pas, si les choses ne seront pas mises dans leur contexte, il va y avoir un dérapage.
Spécialiste des questions sécuritaires, Dr Ali Tunkara abonde dans les mêmes sens. Pour lui, il faut surtout faire en sorte que le processus puisse concerner les vrais acteurs.
Je pense que le séquençage est une nécessité absolue pour arriver à un désarmement à terme, parce que ça va prendre du temps. Mais il est quand même important de rappeler rapidement qu'il y a quand même des défis. Pas que des jeunes quittent les centres urbains pour aller justement se faire enrôler dans les différents corps de l'armée, étant donné que les vrais acteurs qui sont dans les terroirs.
Cette annonce des autorités intervient alors que des milices autodéfense existent dans plusieurs localités du pays. Et certaines parmi elles échappent à tout contrôle, se sont détournées de leur mission principale, qui est la sécurisation des populations.
Soutenir les autorités actuelles de la recherche de la paix et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire malien, tels sont les objectifs de l'Alliance pour la paix et la concorde, appelée Tamouzok en Tamashek. Créée le 24 janvier dernier, l'organisation entend aider les autorités dans la quête de la paix. Abdelmajid Ag Mohamed Ahmed Al-Nasseri Dinasser, 5e vice-président de l'association Tamouzok, joint par Sali Sissoko.
Notre objectif, c'est de soutenir aussi les communautés du nord, du centre, pour qu'elles puissent vivre en toute quiétude chez elles. Et cela, nous allons le mener en envoyant des missions sur le terrain, à Tombouctou, à Gao, à Kigali, à Menaka, pour sensibiliser non seulement les communautés, mais aussi les ONG, pour que ces populations puissent vivre tranquillement chez elles. Et nous avons aussi une ambition d'aller rencontrer la diaspora à l'extérieur, rencontrer nos compatriotes là-bas, pour les sensibiliser aussi dans le même objectif, c'est-à-dire celui de la paix, du vivre ensemble et du retour aussi de nos compatriotes déplacés à l'extérieur. Nous sommes au service des autorités maliennes.
À Koulikoro, la rencontre des ciblages relatives au projet d'amélioration de la décentralisation de l'éducation au Mali a débuté le 4 février 2025. Cette rencontre de deux jours vise à identifier les écoles des communes de la région de Koulikoro susceptibles d'être concernées par ce projet. Il s'agit, selon les responsables du projet, d'accompagner les filles et les garçons à réaliser leur droit à une éducation fondamentale de qualité dans les zones d'intervention du projet. Une vingtaine de retraités, en grande majorité des vieilles dames, entendent depuis 6 mois leur allocation à Bafoulabé. Selon le chef d'agence de l'INPS, deux groupes sont concernés, dont le premier n'a pas encore été contrôlé. Selon lui, une équipe doit venir de Bamako pour effectuer un contrôle physique avant toute autorisation de paiement. Quant au second groupe, il doit fournir des pièces, notamment un certificat de vie, un certificat de non-remariage et un certificat de fréquentation scolaire ou un certificat médical des enfants, poursuit le chef d'agence.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Notre jour d'aujourd'hui parle de certaines personnes qui ont horreur de respecter le rang et l'ordre. Ces impatients sont parfois prêts à tout pour être servis avant les autres. La chronique du jour est présentée par Fatia Tara.
Dans les supermarchés, devant les guichets de paiement des factures, on peut rencontrer ces éternels impatients, toujours pressés, quitte à créer les désordres. Certains le font par impatience, d'autres parce que simplement réfractaires à l'ordre. Mais il y en a qui le font pour des raisons pécuniaires. C'est le cas d'Ivier Bengali. Du haut de ses 60 ans, il profite toujours de la priorité accordée aux personnes âgées pour toujours perturber la file d'attente. Dès son arrivée au comptoir, il se dirige vers le comptable tout en lançant un air méprisant au client trouvé sur place. « Hey, vous me regardez pourquoi? Vous voulez m'empêcher de passer malgré mon âge ?» Il règle ses factures et sort. Un jour, un vigile l'ayant remarqué depuis longtemps, l'a suivi jusqu'à la porte. Il les surprend en train de distribuer des factures à des gens. Déjà, les vieux Bengali prenaient les factures des gens pour les payer moyennant de l'argent. Un business qui lui était devenu rentable. Les vieux Bengali, s'exclame le vigile. Il essaye de se défendre, mais le vigile était déjà parti raconter au personnel du service les petits secrets des Bengali. Ainsi, Bengali ne pouvait plus mener encore son business dans ce service. Comme le dit une sagesse, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre.
Merci, ainsi se referme ce journal qui vous a été présenté par Imran Akil Omega. Merci de l'avoir suivi. Diarrhée, nausées, fièvre, vomissement ou encore maux de tête, voilà des symptômes que peut provoquer la gastro-entérite, cette affection du type digestif. La pathologie est généralement provoquée par la consommation d'eau ou de nourriture contaminée par des bactéries, expliquent des spécialistes de la santé. Au Mali, de nombreuses personnes sont parfois touchées par la maladie. C'est le sujet du magazine Santé du jour, réalisé et présenté par Ousmane Alibouli avec le soutien de nos correspondants locaux.
La gastro-entérite est une infection intestinale causée généralement en raison d'installations sanitaires absentes ou inadéquates. Docteur Fousseni Konare, médecin au centre de santé de Bandiangara, nous édifie sur cette maladie.
La gastro-entérite est généralement causée par la consommation des aliments souillés, généralement causée par les virus, mais dans certains cas, on peut trouver derrière cette gastro-entérite des bactéries, tout comme des parasites. Généralement, ça entraîne la diarrhée, des vomissements. Et qui parle de diarrhée, de vomissements, parle forcément de perte d'éléments nutritifs importants pour l'organisme.
À Tomina, Bankas ou encore à Mopti, des habitants témoignent avoir contracté cette maladie. Certains nous expliquent comment ils ont eu cette infection digestive.
Un jour, la nourriture que j'ai mangée m'a vraiment fatigué. Je n'avais même plus de force à cause de la diarrhée. J'étais obligé de me rendre à l'hôpital et j'ai reçu des perfusions.
L'eau impropre à la consommation et les nourritures avariées peuvent provoquer les maux de ventre terribles. Quand ça m'arrive, je me rends au centre de santé.
J'avais mal au ventre et je vomissais. Après les soins des médecins, 3 jours après, j'ai pu récupérer.
Plusieurs malades souffrant de la gastro-entérite s'adonnent à l'automédication. Une attitude à éviter, selon Dr Fousseni Konare du centre de santé de Bandiangara. Il prévient que l'automédication, en plus d'être inefficace contre la maladie, peut avoir d'autres conséquences sur la santé.
Quand une personne présente une gastro-entérite, il faut se rendre dans le niveau du centre de santé. Quand vous traitez à la maison, ça peut être un traitement qui ne sera pas efficace.
L'hygiène dans l'alimentation est la principale recommandation des médecins pour prévenir la gastro-entérite. Nutritionniste au centre de santé de Kangaba, Dr Daouda Dambélé ajoute que certains cas de pathologie sont aussi contagieux.
Il faudra veiller à l'hygiène au cours de l'alimentation, c'est-à-dire faire en sorte que les aliments que nous consommons depuis la préparation jusqu'à la consommation, que cela se passe dans les règles de l'hygiène. Et c'est aussi qu'ils consomment les aliments, qu'ils se lavent proprement les mains avant de manger quoi que ce soit. Les aliments que nous consommons sont aussi propres. Quand on a la gastro-entérite, il faut éviter tout contact avec votre entourage. Pourquoi? Parce que dans certains cas de gastro-entérite, ça peut être transmissible à d'autres personnes.
La gastro-entérite est une pathologie qui provoque de la déshydratation chez le patient. Ainsi, les médecins conseille l'hydratation du malade en plus du traitement médicamenteux. Docteur Dauda Dambélé, nutritionniste au centre de santé de Kangaba.
Au cours de la gastro-entérite, l'organisme perd de l'eau et l'eau perdue doit être remplacée. C'est pourquoi il faut s'hydrater et il faut s'alimenter. Il faut s'alimenter parce que au cours de la gastro-entérite, généralement ça entraîne la diarrhée, les vomissements. Dans certains cas, il faut traiter la cause, tout comme dans d'autres cas, il faut s'atteler à traiter seulement les manifestations qui sont autour de la gastro-entérite et au bout de quelques jours, généralement, on rentre dans l'ordre.
Selon les spécialistes, les personnes à risque sont les enfants,